Moi, c'est André de Mouchmaï au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement cette
histoire. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. C'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons dans cet échange et partage citoyen. Dans un communiqué émanant de la direction provinciale de la régie des voies aériennes, RVA Nord Kivu, il est fait état de la revue à la hausse de la taxe aéroportuaire, généralement appelée GoPass. Cette taxe qui porte l'intitulé de redevance passager en vigueur depuis le 1er janvier 2017 revient désormais à 58$ pour le vol international et à 20$ pour les embarquements nationaux. Entre-temps, dans une interview accordée à Radio Capi hier, le DG de la RVA affirme que ce réajustement est une proposition et ne devrait pas encore entrer en application, laissant d'en arrêter les dispositions pratiques avec les compagnies aériennes. Comment réagissez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Les débats, c'est aussi sur notre page Facebook. Vous avez également la possibilité d'interagir sur radiocapi.net. Pierrot et la Mégie est à la réalisation au standard de cette émission. Jean-Claude Sialla assure la mise en onde de ce programme, supervisé par Martin Sébizangé et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Merci encore de votre fidélité et bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le réel plaisir de recevoir pour la première fois depuis le début de cette année M. Al Kitenge, qui est du reste analyste économique, voilà, et habitué de cette émission. Il connaît les jeux des auditeurs et les auditeurs les connaissent mieux. Voilà donc le temps pour moi de ne pas faire trop de commentaires. Bonjour Al, les meilleurs vœux.
Bonne année à vous, bonne année à tous nos auditeurs.
Voilà, Al Kitenge, vous avez suivi l'actualité comme nous, la redevance passager, voilà, donc on aimerait bien partager peut-être l'expérience sous d'autres cieux. Comment fonctionnent-ils les mécanismes de l'application de cette taxe? En tout cas, ailleurs, question de pouvoir peut-être copier l'exemple, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression et les messages que nous avons reçus des auditeurs qui ont déposé des messages sur notre page Facebook, s'inquiètent que le voyage en RDC puisse devenir un luxe.
J.R., il y a justement ce problème de statut. Vous-même, vous êtes dans une confusion totale, tantôt vous l'appelez taxe, tantôt vous l'appelez redevance, et c'est comme ça que c'est installé dans la tête des citoyens congolais. Et donc, il y a un problème de communication. La taxe est une matière légale. Ça veut dire qu'il faut bien une loi, il faut bien que le Parlement se siège et qu'il décide et que le chef de l'État promulgue pour qu'on ait une taxe. Et donc, cette affaire n'a jamais été une taxe dès le départ, c'est une redevance. Et cette redevance, théoriquement, est une matière discutée entre l'État, je veux dire l'entreprise qui gère les aéroports, et les exploitants. Et alors, il y a une troisième composante qui a toujours été royalement oubliée, c'est les consommateurs, ceux-là qui payent réellement. Et malheureusement, dans ce pays, la dictature n'est pas que politique, elle est également économique. On se lève un matin, quelqu'un décide de pouvoir créer une redevance ou des prêts quelconques que les gens sont censés payer, et on n'explique à personne, et du coup, ça crée un flou, et ça crée de la méfiance. À côté de ça, il reste cette question importante de la transparence et de la redevabilité. Lorsque vous percevez de l'argent de manière circonstancielle, vous devez être en mesure de dire c'est pour quoi faire, et lorsque vous le faites, vous devez être en mesure de le montrer. Mais si c'est une redevance ou des prêts permanents, vous devez être en mesure de les discuter, de les expliquer et d'en faire un débat avant que les gens ne commencent à les payer. C'est comme ça que ça se passe partout ailleurs.
Voilà. Alors, ailleurs, donc, vous l'avez dit, vous l'avez bien expliqué, la redevance, elle est tout à fait différente de la taxe, parce que la taxe, elle est imposée par l'État, la loi, et puis, bon, les structures habilitées à faire entrer, en fait, dans les trésors publics, afin de pouvoir organiser la redistribution équitable. Voilà, donc, le principe économique des bases, ce sont les fondamentaux. Mais alors, aujourd'hui, c'est vrai, on est parti des 50, c'est long. Si nous nous référons de ce communiqué de la RVA Nord Kivu, on est parti des 50 à 58 dollars et des 10 dollars à 20 dollars. Alors, est-ce que cela ne peut pas susciter des craintes ou encore peut donner place à des doutes ou des craintes auprès de la population pour voir que finalement le voyage puisse devenir un luxe?
JR, il faut quand même expliquer à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, on n'est pas à la télévision ici, à nos auditeurs, de quoi il s'agit. Un, il s'agit d'une entreprise qui s'appelle la Régie des voies aériennes. Elle est une et unique, elle est indivisible et elle est gérée selon les structures. Le conseil d'administration et un comité de gestion qui prend toutes les décisions. Les divisions provinciales suivent les instructions qui sont prises au niveau du comité de gestion, qui est en fait le mandataire du conseil d'administration, qui lui-même est mandataire des actionnaires. Et donc, il est important de se rendre compte que la province n'a pas le droit de pouvoir prendre une décision quelconque si celle-ci n'est pas entérinée par la hiérarchie qui se trouve être le comité de gestion, qui a le mandat de gestion. Et donc, il est inacceptable et impensable qu'une province, dans le cadre spécifique d'un aéroport bien particulier, nous ayons la possibilité de générer des frais supplémentaires tout à fait spécifiques. Et donc, ça doit faire partie d'un plan général de trésorerie qui est celui du comité de gestion qui fait de la répartition. Entre les deux, quelle est la réalité du Congo? C'est qu'il y a des aéroports viables, d'autres qui ne le sont pas. Et en gardant tout ça dans le même panier, on a commencé aujourd'hui à avoir des réflexes du genre, il y a des aéroports qui cherchent à avoir des solutions particulières à eux. La vérité, c'est que en réalité, il y a un problème au niveau de la redistribution à partir du moment où l'argent arrive dans la caisse du comité de gestion. Et je crois que c'est ça le problème qu'il faut
résoudre. Alors, Alkitegué, est-ce que vous avez un regard sur l'application de cette redevance et son implication, son impact sur les sociales, sur le travail que devait faire en principe cette redevance? Est-ce que vous avez un regard avant, pendant et après l'application de cette taxe?
Il est indiscutable qu'on a fait d'énormes progrès. C'est ce que moi j'appelle tout le temps un contrat social. À partir du moment où, du temps de Jean Assis, qui était le directeur général de la RVA, on a institué cette redevance de manière tout à fait cavalière, malheureusement d'ailleurs, et ça, c'est pour ça que ça traîne jusqu'à aujourd'hui une certaine discussion autour de la viabilité. L'objectif était très clair, c'est de se constituer une caillotte qui pourra servir de levier financier pour être en mesure d'emprunter beaucoup d'argent et de moderniser nos infrastructures aéroportuaires, en commençant par le guidage et l'assistance aérienne. On a réussi aujourd'hui à faire un très beau salon pour le chef de l'État. Est-ce que c'est la priorité? Tout le monde a son point de vue là-dessus. Il y a eu beaucoup de critiques, mais nous l'avons, il est là.
On a l'aéroport international aujourd'hui dans son nouveau format.
On a l'aérogare avec les services modernes. C'est petit, mais c'est de loin mieux que tout ce qu'il y avait dans l'ancien bâtiment. Et ça augure de comment on peut faire les choses différemment si on désire le faire. On a des aménagements au niveau de l'aéroport lui-même, la piste, ici à Kinshasa, à Lubumbashi, et je crois à Goma. Et je pense qu'on fait un certain nombre de choses. Ce que les gens disent, et c'est ce qui est gênant, c'est que ce qui est général dans le pays, les entreprises ne publient pas leurs rapports d'exécution audités et certifiés, où les gens peuvent aller librement consulter les informations, être en mesure de se rendre compte que l'affectation des moyens qui ont été mobilisés a été correcte ou pas. Et ce manque de transparence dans le pays est généralisé, et ce n'est pas le fait de la RVA tout court, mais c'est des choses qu'il faudrait qu'on arrête si on désire créer la confiance. Pourquoi je le dis? Parce que la première source à mobiliser en termes de financement pour des réalisations, c'est ce qu'on appelle l'économie domestique, ça veut dire l'épargne interne. Il est donc important qu'on se rende compte qu'il y a des pays très endettés comme le Japon, il est à 240% du PIB, mais c'est de l'endettement intérieur, ce sont les citoyens qui financent l'État. Et il est important de recréer cette confiance, et pour recréer cette confiance, il est important que les gens aient la possibilité de vérifier.
Est-ce que vous êtes d'avis, Alkitegué, qu'il va falloir repenser aujourd'hui les mécanismes de l'application de cette redevance?
La première des choses qu'il faut repenser, c'est déjà la structure même de la RVA. La RVA, c'est une cinquantaine d'aéroports dont une grande partie n'est pas viable. Dans le monde entier, les aéroports sont soit publics, soit public-privés, soit privés. Il est important qu'on se rende compte qu'on n'a pas la capacité aujourd'hui de moderniser un certain nombre d'aéroports et d'y créer l'activité économique nécessaire pour que ce soit en mesure de pouvoir se prendre en charge. Il est important d'être créatif. On ne peut pas garder des cadavres pendant des années et des années. Donc, à un moment donné ou à un autre, ils ont
estimé que la RVA, c'est un cadavre.
La RVA est en situation de paiement. Si on leur demande de payer tous leurs engagements aujourd'hui, comme beaucoup d'autres entreprises, ils vont s'arrêter. respecter, c'est aussi évident que ça.
Mais maintenant, c'est
ce qui explique justement que des aéroports comme celui de Goma commencent à chercher des solutions particulières, alors que les solutions de la gestion de l'aéroport de Goma sont censées être trouvées dans le cadre du comité de gestion qui est en fait le seul mandataire.
Donc si on laisse faire Goma, ça risque d'avoir l'effet domino.
Nous aurons un désordre qui va s'implanter et chacun dans son coin va penser qu'il peut, de manière complètement illégale, poser des actes, générer des revenus et les affecter comme il l'entend.
Alors, juste un petit, disons, un regard en arrière, je vois en 2012-2013 un rapport publié par la Cour des comptes sur la gestion de cette redevance. Vous avez évoqué la transparence. On se rend compte qu'il y a une opacité dans la gestion. Et là, je vous rejoins pour dire que finalement, les quelques actions qu'on a dû mener dans les contrats sociaux, ça ne représente pas grand-chose par rapport à ce que la population pouvait bénéficier.
Il est évident qu'à partir du moment où il n'y a pas de transparence, tout le monde peut spéculer. Aujourd'hui, si nous désirons vérifier la véracité de la qualité de la collecte et de l'affectation, il faut avoir des chiffres que vous et moi, nous n'avons pas en ce moment. Mais la seule chose qui est gênante, et tout le monde le dit de manière assez claire, c'est que les choses se passent dans une opacité totale, et ce n'est pas acceptable. À partir du moment d'ailleurs où on mobilise les moyens qui sont ceux des bénéficiaires des services, il est important de pouvoir leur dire on a mobilisé autant et on a fait ceci, voilà ce que cela a coûté. Et autre chose, dans la manière de passer les marchés, il y a des procédures et il y a de la transparence. Je donne quelque chose qui est gênant. C'est l'accès à l'aéroport. Un, quand on arrive, il y a un système automatique. Il tombe en panne, on le remplace par un service secondaire qui tombe en panne. Maintenant, les barrières elles-mêmes, on commence à les lever à la main. Ça montre clairement qu'on n'a pas réussi à adopter la modèle.
C'est le nouvel aéroport.
Je parle de la nouvelle aéroport. Et c'est honteux ce qui s'y passe. Deuxième chose, et c'est la chose qui n'est tout simplement pas acceptable, quand vous allez dans l'aéroport, dans l'ancien aéroport, ou vous allez dans l'ancien parking, qui lui, aujourd'hui, accueille en grande partie les personnalités, là-bas, c'est gratuit. Mais je trouve ça complètement honteux. Ce sont ceux-là qui gagnent le plus d'argent, qui ne payent pas.
Mmh.
Ça, c'est des choses simplement inacceptables. Vous savez, pour résoudre ce genre de problème, c'est très simple. On met un système où il n'y a personne. Et le mécanisme qu'ils ont mis au départ permettrait normalement aux gens de pouvoir prendre leur ticket, de payer la
paie,
et de pouvoir être en mesure de sortir en ayant payé sans aucun problème, sans aucune intervention humaine. Ça mettrait les citoyens à égalité. Et ce genre de choses sont importantes pour créer la conscience des gens.
Et l'idée d'incorporer cette redevance dans les billets d'avion, comme vous l'avez réclamé, d'ailleurs, travailler avec les entreprises qui collectent, qu'on les mette déjà de manière incorporée, on est bon finalement, les gens sont surpris, on se rend compte qu'on a les billets, mais il faut encore chercher les GoPass, et on se retrouve à l'aéroport, on n'a pas les 50 dollars, et on n'a pas les 10 dollars, et maintenant on revoit à la hausse, c'est 58,
finalement c'est compliqué. Et il y a deux choses. La première, c'est que vous vous souvenez à l'époque, il y a le fonds de promotion du tourisme qui était incorporé à l'intérieur, et qui est d'ailleurs, c'est toujours 30 dollars par billet émis pour l'étranger, et je crois 10 dollars pour les billets locaux. Et très malheureusement, il n'y a pas eu non plus de transparence à cette époque-là, et la grande partie de cet argent a toujours été détourné, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et si on y met le nez, ça sentira très mauvais. Mais je ne voudrais pas revenir sur ça. Ça veut dire remettre ça dans le billet n'est pas nécessairement la meilleure solution. Mais je vais vous expliquer une chose au niveau de la perception. À partir du moment où quelqu'un a payé son billet, il attend à pouvoir avancer de manière très simple. Pour quelle raison les entreprises de transport aérien refusent d'incorporer cet argent dans le billet? C'est à cause de la perception du prix du billet. Parce que finalement, ils veulent être en mesure de démontrer aux clients que le problème, ce n'est pas nous. C'est votre État et vos différentes entreprises qui continuent à ajouter des taxes supplémentaires. Mais en fait, c'est des choses qui auraient pu être transparentes si les gens s'intéressaient, et ça c'est la faute des consommateurs eux-mêmes, ils ne sont pas organisés, à la structure de prix des billets. Vous parlez du caractère cher des billets au Congo, des voyages au Congo. La seule chose à faire, c'est ce que les Anglais appellent un benchmark, ça veut dire une comparaison dans la zone. Le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Zambie, les pays qui sont autour de nous, et regardez ce qu'au 1000 km nous payons. Et là, vous allez voir.
Voilà, on va revenir par rapport à ça, et il est temps pour nous d'accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Vous êtes nombreux à avoir déposé vos commentaires sur notre page Facebook. Nous en remercions par rapport à cela, l'intérêt que vous accordez à nos sujets, que c'est que nous débattons chaque jour. Voilà, donc on va lire quelques messages d'un moment à l'autre, mais il est temps pour nous d'ailleurs de rappeler aux uns aux autres qui veulent bien participer à ces débats, 081-890-7315 pour votre intervention directe.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Les tours de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Alain, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour Alain.
Bonjour Radio Capi, bonjour à votre invité, bonjour à tout le monde.
Dans votre message, vous avez soulevé une question fondamentale, ce que l'on fait de toutes ces recettes est pourtant colossal. Voilà, donc c'est la question. Vous avez voulu vraiment avoir des éclairages par rapport à ça.
Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même, commencer à saluer la mémoire de Lumumba. Je crois que quand j'étais à Kisangani, j'ai vu, il y avait, ensuite de Gopas, il y avait une nouvelle taxe, la taxe sur les statistiques d'embarquement. Et on s'est rendu compte que, compte tenu de mouvements, de flux qu'il y avait, en tout cas, ça faisait quand même quelque chose de bon. Mais malheureusement, j'ai constaté que dans cet aéroport de Bangoka à Kisangani, il n'y avait rien en fait. On a trouvé que des vestiges de la décolonisation et il n'y a rien de modernisé en fait. Et pourtant, l'idée de départ, c'était de permettre, ça fait que la régie puisse avoir le moyen nécessaire et permettre la réhabilitation des infrastructures. Mais malheureusement, on se rend compte que tout est focalisé soit à Kinshasa, soit à Kindu, mais en réalité, le reste du pays n'en bénéficie pas. Alors, moi, je me pose la question, si nous autres, nous participons dans la réhabilitation des infrastructures et qu'au finish, on ne voit pas le contrepartie, on ne voit pas ce qu'on en fait, donc, quelque part, nous avons des raisons à nous poser des questions du genre, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que le souci de départ, c'était de permettre à ce que le pays puisse avoir des infrastructures modernes. Mais malheureusement, on se rend compte que la gestion est insuffisamment assez opaque et cela ne nous permet pas de faire une sorte d'évaluation. Ça a commencé plus de 2 ans, plus de 5 ans. Mais jusque là, on ne voit pas assez de réalisations. C'est vrai qu'on a eu à réhabiliter ou à construire un nouveau bâtiment. C'est vrai qu'on a eu à réhabiliter les équipements ou les installations, mais au finish, on sent que l'action qui est menée aujourd'hui ne correspond pas aux moyens qui ont été disponibilisés. Donc, quelque part, la gestion n'est pas claire. On ne permet pas de faire une évaluation, comme l'a dit votre invité, et ce qui reste maintenant, qu'on nous donne des informations pour que nous voyons si effectivement nous devons continuer de la sorte ou carrément prendre d'autres options. Parce qu'il ne serait pas juste que nous autres qui avons moins de moyens nous contribuons, alors que les autres ne payent pas. Je prends le cas du parking, comme l'a dit votre invité. Lorsque vous arrivez, on vous dit, par heure, vous devez payer 8 dollars. Dès que vous dépassez 8 dollars, ça devient 5 dollars. Il y a des avions qui vous disent, voilà, nous allons arriver à 21h, ils arrivent par exemple à minuit, et qui fait que vous devez ajouter, tu payes encore 3 heures de plus, ce que nous n'avons pas prévu. Il m'est déjà arrivé, quand je voyageais, de voir qu'on me dit, non, il fallait, en Suisse de 10 dollars, il fallait ajouter encore un 5 dollars. Et on me dit, c'est la taxe sur les statistiques d'embarquement. Et personne ne donne l'information sur la nature ou sur le bien fondé de ces taxes. Nous avons payé au Mofinis, il n'y a même pas de preuves de paiement. On ne peut même pas prouver que nous avons payé. Donc, quelque part, j'estime de mon point de vue qu'il y a un problème de gestion. On doit nous aider à avoir la vraie information, nous permettre aussi d'apprécier si cela est correct ou pas.
Merci beaucoup Alain. Pour vous, vous estimez qu'il y a un problème, un véritable problème de gestion. Et là, vous rejoignez notre invité tout à l'heure qui évoquait la question sur la transparence, en fait la redevabilité, devait normalement caractériser la gestion de la RVA autour de cette redevance passager. Maître Trésor, vous êtes à Kinshasa également. Est-ce que vous partagez cet avis? Bonjour Maître Trésor et bienvenue.
Bonjour, merci à vous, JR, et à tous les auditeurs des Radio Capi.
Pour vous également, il s'agit toujours d'un problème de gestion?
Bon, le problème de gestion est réel et permanent. Personne ne peut nier ce problème-là. Mais je voudrais ici mettre l'accent sur le travail des parlementaires. Puisque la redevance à question est une charge créée ou bien qui vise à financer la régie des voies aériennes. Auparavant, au cours de cette émission, j'avais parlé de la nature même de ce qu'on appelait taxe GoPass. L'invité a fait allusion à ça et il a bien expliqué. Aujourd'hui, on a changé pour parler de rédevance passager. Je pense que cette rédevance a pour but d'aider la RVA à répondre à certaines exigences de son fonctionnement. Et une autre nature maintenant pour cette rédevance, c'est la taxe parafiscale, un prélèvement opéré par les organismes semi-publics, publics ou privés pour assurer leur financement autonome. Étant donné que la rédevance est interne à la RVA, on ne sait pas vraiment se rendre compte de la gestion. Ben, les parlementaires, nos députés nationaux, les sénateurs aussi, peuvent s'intéresser de la question. Faire venir les responsables de la RVA. Poser des questions, hein, mener les enquêtes de ce qu'il faut à travers les pays et voir les affectations, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent depuis toutes ces années-là. Bon, je crois que la rédevance ne peut pas précéder un service. Le service doit exister avant de mettre en place une rédevance. Quand on crée une rédevance, il faut qu'il y ait ce service-là. Et le service ne suffit pas. Renforcer la climatisation des bureaux des responsables de la régie qui perçoit cette...
Oui, mais je crois que Maître Trésor, nous l'avons fait il y a quelques temps aussi, ma mémoire est très bonne, il y a 2 ans, on est revenu dans cette émission autour de du rapport de la Cour des comptes qui en fait a décelé quelques lacunes qu'on avait en fait trouvées dans la gestion de cette rédevance passager. Ben alors, curieusement, aujourd'hui, on a l'impression que toute la décision ou les orientations faites par la Cour des comptes, aucune orientation n'a été prise en compte. Bon, on ne sait pas pourquoi. Entre autres, au niveau des chiffres d'affaires, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine opacité dans la perception. C'est la banque telle qui prenait, pour les comptes des X messieurs ou des X et des Y dames. Bon, voilà. Donc, tout ça, toutes ces lacunes. Mais il était question qu'on puisse référer aux orientations proposées par la Cour des comptes pour arriver au résultat et en évoquant, bien entendu, la responsabilité des parlementaires. Nous allons y revenir avec l'autre invité pour voir un peu quelle est la place, les rôles que doit jouer aujourd'hui le parlementaire dans la gestion de cette rédevance passager. Merci beaucoup, Maître Trésor. Confiance, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Mbote Djambo à tous les occupants de Radio de la Paix et bonne année à tous.
Et quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
En fait, c'est avec beaucoup de peine que je parle souvent de ce genre de sujet. Je pense que de la même manière qu'on parle de la rédevance, on devait aussi parler de la rédevabilité. Je suis content que Al Kipenge l'ait souligné. Ce qui fait mal dans la plupart des cas, c'est l'opacité qui entoure tout ce qui est financier dans notre pays. Et dans tous les régimes financiers, c'est de la même manière qu'on traite ce genre de questions. Ce qui fait mal, c'est le désordre qui caractérise la gestion. J'ai toujours souhaité que la nomination des autorités à la tête des entreprises comme celle-ci soit toujours soumise à un business plan et qui, en réalité, devait être suivi à la fin de chaque exercice. Mais je me demande, pendant que nous manquons toujours l'argent pour les choses importantes, on ne comprend jamais comment une régie génératrice de recettes comme la RVA soit toujours au centre des grèves, des mécontentements, des impayements, comme le cas de Mbujimayi, ou peut-être on en a entendu à la radio au Capi, qui a un aéronef qui a eu sûrement un accident, qui est sur place et qui devait payer aussi ces histoires-là de parking. Et vous vous imaginez que les gens commencent à réclamer, à cause de leur impayement, que la société qui devait leur payer l'argent, que cet argent serve à leur payer les salaires. C'est quand même inconcevable qu'une régie comme celle-ci ait en son sein des gens qui se plaignent. Donc, c'est d'une manière générale, des petites choses qui font que la corruption entre, ainsi de suite, et des petites choses qui ne font pas avancer la société. Mais, que fait-on réellement avec cet argent? Qui en réalité devait servir à la viabilisation des installations portuaires ou aéroportuaires? Et que nous n'ayons qu'un 1/10 d'installations viables sur la 50aine dont nous disposons. Donc, il y a anguille sur os. Il y a un problème. Et partout, il y a des choses comme ça. Nous ne soyons pas ingrats. Nous sommes reconnaissants de ce que nous voyons à Kinshasa.
Oui, complètement. Si nous faisons un peu un pas à l'arrière, passé récent ou encore très lointain, selon les uns et les autres, on se rend compte qu'à une certaine époque, pour ne pas citer la Deuxième République, il y avait des aéroports qui, du reste, étaient réellement des aéroports internationaux, avec des pistes viables, mais aujourd'hui, avec cette rédévance, mais on a vraiment un problème de pouvoir, ne fût-ce qu'avoir des infrastructures aéroportuaires dignes ou encore viables.
C'est le même constat que j'ai aussi. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir fait toutes les provinces de la RDC, mais je prendrai un coin comme le Bazouélé, à Bouta, où il y a un aéroport qui n'est même pas dans certaines villes du Congo, des grandes villes. Mais c'est une perte. Pour moi, c'est une perte. Qu'est-ce qui manque pour qu'on viabilise un aéroport comme celui-là? Bouta, c'est pas quand même une petite ville. Mais vous allez voir qu'un bijou comme ça est en train de traîner dans une forêt pendant que nous avons des autorités qui ne peuvent pas viabiliser. Quand on parle de la viabilisation, mais c'est le travail de qui? Et celui qui prend la tête d'une régie comme celle-là. Moi, je pense qu'il devait avoir un plan.
Alors maintenant, la question, c'est ton collègue, cette rédevance-là, pour le compte de qui?
Bon, moi, je pense que cet argent-là n'entre que dans les poches des gens. Parce que si cet argent-là n'entrait pas dans les poches des gens, on n'aurait pas des gens qui réclament leur salaire. Je parle bien de leur salaire et de leur prime. Et c'est quand même inconcevable. Donc cet argent-là n'est conçu que pour les postes des gens. Et tant qu'il n'y aura pas de suivi, tant qu'il n'y aura pas de rédévabilité, tant qu'il n'y aura pas de rapport final qui doit être publié, Kitenge l'a dit. Donc il y a jamais eu, il y a une opacité qui entoure tout ce qui est financier dans ce genre de régime.
Merci beaucoup, Confiance. Et on va écouter également Valérie avant de revenir à notre invité. Valérie, vous nous avez rejoint. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, comment ça va?
Voilà, nous allons bien, Valérie. Alors, vous avez suivi vos prédécesseurs. Est-ce qu'il y a un élément nouveau qu'on peut ajouter? Est-ce que vous estimez, comme les autres, qu'il va falloir repenser aujourd'hui l'application de cette rédévance?
Bon, d'abord, je trouve une sorte de ruse, hein, lorsqu'on passe de la dénomination taxe à la rédévance, à entendre bien, à bien suivre les explications de notre invité. C'est-à-dire que l'on a contourné l'intervention des députés. Parce qu'on s'est dit, si nous voulons parler des taxes, il va falloir que ça soit une loi, et que ça passe par l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État. Autant le faire un peu sous forme de rédévance entre l'entreprise, les sociétés commerciales, ainsi de suite. Vous comprenez que là, il y a une tendance...
Oui, mais Valérie, nous avons évolué comme ça pendant plus de 4 ans, si ma mémoire est très bonne, sous cette appellation des taxes. Donc je crois que, bon, pour ne pas trop extrapoler, sous réserve d'ailleurs des juristes, l'erreur commune fait déjà les droits. Nous sommes déjà en droit de... Et aussi, ils sont dans le droit de le percevoir.
Oui, mais moi je crois qu'ils l'ont fait pour éviter, parce qu'ils savent que si ça va à l'Assemblée nationale, ça ne va pas passer comme tel. Et puis deuxièmement, comment voulez-vous que dans un pays où les gens n'ont pas de salaire, on doit tout le temps augmenter les charges à ces travailleurs? Il n'y a ni SMIC, ni budget type. Lorsque je parle de budget type, je vois un montant moyen de dépenses qu'un individu peut engager pendant une période. C'est un élément très essentiel dans l'élaboration du SMIC. Lorsque dans un pays, vous n'avez pas de budget type, eh bien, on ne sait même pas élaborer le SMIC. Mais il faudrait que la charge soit quand même supportable par les travailleurs. Mais lorsque les travailleurs n'ont même pas de salaire, on augmente en vertu de quoi? Nous allons des forfaits forcés. La régie des eaux fait payer des forfaits aux gens quant à la consommation d'eau, l'actuel même, la RFA même, mais là, c'est une exploitation de la population. Je ne voudrais même pas qu'on arrive à nous dire qu'on voit les réalisations à l'aéroport de Goma, à l'aéroport de Ndjili. Non, moi, ça me dit bien. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'évaluer pour savoir combien on a payé et avec combien on a dû faire des aménagements.
Vous êtes à Kindu. L'aéroport de Kindu aujourd'hui peut quand même aussi être au rendez-vous parce que c'est modernisé.
Bon, l'aéroport de Kindu, d'abord, je dois reconnaître que c'est un aéroport propre, c'est aussi un aéroport qui est
point. Le résultat, on a dit que c'est le résultat.
On allait le rendre, on allait l'internationaliser, comme on a dit. Mais jusqu'à la chute même du régime à Katakoni, on n'a pas vu là où on a rendu l'aéroport.
Voilà, vous parlez des chutes. À la place, j'utiliserai peut-être une autre démission, peut-être, parce qu'il avait déposé sa démission. Et puis, il y a un autre gouvernement qui est en place. Bon, peut-être le mot. Il n'est pas très bien fait, Valérie. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir appelé 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Alki Tengue, vous êtes avec nous, vous êtes notre invité, vous avez suivi les uns les autres par rapport à cette question. Beaucoup d'appréhension, beaucoup de passion aussi, parce que tout le monde revient sur la gestion opaque, et voilà, les problèmes d'opacité, la transparence, comme vous l'avez dit, la rélevabilité, confiance l'a dit. Donc, on est vraiment loin de trouver une solution, parce que bon, il y a un flou.
En fait, vous remarquez de manière transversale que tout le monde revient sur le besoin de redevabilité. Mais en même temps, nous avons des consommateurs totalement irresponsables, ni organisés, ni capables de réclamer ce qui est censé être du domaine public. Toutes les informations financières des entreprises sont du domaine public. C'est censé être publié. Si on ne publie pas, nous devrions être en mesure, de manière organisée, de le réclamer. Les gens profitent d'une tribune comme la vôtre pour être en mesure d'exprimer une frustration. Mais ça ne peut pas être comme ça. Un pays doit s'organiser. La société civile doit s'organiser. Vous estimez qu'il y a des débordements au niveau de la gestion et de la pression qu'on applique sur les citoyens. Mais les consommateurs des services de transport aérien devraient être en mesure de s'organiser, de demander.
Il y a une structure qui réunit pratiquement les consommateurs, Pierrot. L'essai, d'ailleurs, pour avoir fait beaucoup d'émissions, hein. C'est le président, encore son nom là, mais je m'échappe.
Il ne devait pas y en avoir une seule, il devait y en avoir beaucoup. D'abord, de manière générale, mais aussi spécifiquement secteur par secteur. Les financiers, les télécommunications, les consommateurs de voyages, ce genre de choses. Et donc, on devrait avoir la capacité de demander des comptes. Mais là, je voudrais quand même revenir sur l'ensemble des choses que les différents auditeurs ont soulevées. Alain parle des recettes dites colossales. Je voudrais lui donner un ordre de grandeur. La redevance aéroportuaire, c'est à peu près $1,300,000 par mois. Ce n'est pas du tout colossal. C'est même très peu d'argent. Je voudrais qu'il aille consulter les chiffres de deux aéroports, celui d'Addis Abeba et celui de Nairobi. Je parle de deux aéroports, je ne parle pas des pays. Vous allez vous rendre compte que nous parlons d'autre chose. Le nombre de passagers qui passent par ces aéroports est très important. Là, ça revient à ce qu'un des auditeurs a dit, ce qu'on appelle le business plan. Vous n'allez pas avoir des infrastructures et ne pas avoir un programme d'exploitation derrière. C'est l'histoire de Inga, dont on n'avait pas une exploitation derrière. Ça devient un éléphant blanc. Donc, à un moment donné, un pays doit avoir un programme de ce qu'on appelle le développement du tourisme. C'est deux paliers. Le tourisme intérieur et le tourisme extérieur. À partir de ce moment-là, l'exploitation des infrastructures et le financement des infrastructures se justifient. Et chez nous, malheureusement, on a des infrastructures qui sont en fait pas débitées. Il y a un aéroport international, nous n'avons même pas un plan.
L'aéroport de Basilé, comme l'a dit l'auditeur, mais c'est vraiment une perte, parce que bon, on pouvait bien viabiliser.
Le drame de notre pays est toujours le même. On centralise tout à Kinshasa, et Kinshasa est excentré. Alors quand quelqu'un voudrait aller dans la partie nord de notre pays, il va en Ouganda et puis il traverse. Alors que nous aurions pu avoir, nous, la possibilité d'ouverture internationale par les voies aériennes. Et c'est extrêmement important. C'est de cette vision globale et globalisante que doit sortir la capacité de rentabiliser les différentes infrastructures. Si vous voulez mon point de vue, c'est qu'en réalité, chaque aéroport devrait devenir une entreprise à part. À ce moment-là, les plus petites et les grandes travaillent et l'État décide de quelle manière elle appuie les entreprises ou les aéroports qui ne sont pas encore
basés en partenariat public et privé.
Mais bien sûr, on n'a pas le choix, parce que sinon, on a toujours des aéroports comme celui de Mbandaka qui ne rapportent pas grand-chose aujourd'hui et les gens sont en grève simplement parce que le comité de gestion a fait quelque chose à ça et c'est en passant qu'il n'y a pas de raison de pouvoir les payer, et ça c'est complètement inacceptable. Donc à un moment donné ou à un autre, il faut responsabiliser les gens. Et donc je voudrais dire que les recettes que nous avons ne sont pas colossales, elles ne sont pas colossales faute du trafic. Et donc il y a un travail à faire, et qui n'est pas celui de la RVA, mais qui est un travail transversal entre la RVA, l'Office national du tourisme, et les autres infrastructures ou entreprises qui sont censées être en mesure de pouvoir y contribuer. On parle de la taxe statistique. Moi, j'ai entendu dans
Kimbuta.
Et dans Kimbuta, on l'appelle la carte Kimbuta. Les gens l'appellent comme ça,
oui,
de manière méchante, la carte Kimbuta, parce qu'ils considèrent que Kimbuta,
mis à part les billets d'avion, quand vous arrivez à l'aéroport, vous payez les 50 pour vol international, et aussi 10 dollars, la taxe que les autres appellent abusivement, la taxe Kimbuta, voilà, 10 dollars.
Et il y en a de 10 et puis il y en a 50.
Voilà,
c'est compliqué. Et les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et ça, ça pose toute la grande question de comment on arrive à amener le citoyen à payer. Il y a un partenariat entre l'État, les entreprises et le consommateur et le citoyen. Et il faut toujours expliquer. Et quand vous expliquez, les gens comprennent et la perception devient positive. À ce moment-là, les gens adhèrent. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez votre plan de travail, vous prenez des engagements dans le plan stratégique et dans le plan opérationnel, vous dites, nous allons prendre autant d'argent pour faire ceci, vous faites des projections. À la fin de l'année, vous dites, voilà ce que nous avons effectivement collecté, voilà ce que nous avons effectivement fait. L'année suivante, personne ne va vous poser des questions. Aujourd'hui, la frustration que nous avons, c'est que les personnes ne comprennent ce qui est en train de se passer. Il y a un de vos auditeurs qui a parlé de la suspicion, moi je la trouve, la suspicion légitime, parce que simplement, elle n'est pas liée à l'information prouvée, parce que les gens ont le droit de spéculer quand ils n'ont pas l'information. L'absence d'information appelle la spéculation. Par contre, moi, je voudrais en appeler à l'intelligence collective. Nous avons un des aéroports, j'ai envie de dire, le plus illettré possible. En étant chez vous, vous n'êtes pas capable de savoir est-ce que l'avion a eu un retard ou pas. Alors que cette information est disponible, elle peut être mise à la disposition. Tous les aéroports du monde ont développé ce qu'on appelle les applications. À partir d'où que vous soyez, vous avez donc les mêmes informations qui défilent sur les écrans. Aujourd'hui, Internet le permet. Ça peut donc éviter ce monsieur qui vient pour un avion qui va arriver à 20h, qui a été décalé depuis le matin de 2-3 heures, mais lui ne le sait pas. Et c'est en arrivant qu'il subit 3 heures et donc ses montants augmentent. La gestion de l'information est très importante. Et notre aéroport est malheureusement très en retard. Non pas parce que ça coûte cher, non simplement parce que les gens ne savent pas ce qu'il faut faire. Et je peux vous garantir que ce n'est pas compliqué à faire. Et ça, vous regardez ce que Trésor disait tout à l'heure en parlant des parlementaires. Oui, c'est possible que les parlementaires s'intéressent à une entreprise publique. Parce que même commercial, l'actionnaire unique se trouve toujours encore être l'État congolais. Mais moi, j'en appelle aux associations des consommateurs. Ce sont les premiers qui doivent être en mesure de s'y intéresser parce que c'est eux qui payent. Et quand vous payez, vous avez le droit de demander ce qu'on fait.
De lancer des motions, le Parlement.
Et j'ai encore dit tout à l'heure, la seule façon de le faire, c'est de faire un benchmark, une comparaison entre les autres pays et nous, en termes de nature des redevances, mais également en termes de la hauteur, et donc le poids réel que vous payez. Et vous pouvez donc avoir des arguments pour être en mesure de discuter. On risque d'avoir une surprise. On va se rendre compte que, pour certains rubriques, nous, on sous-paye, et pour d'autres, on exagère. Et en ce moment-là, il y a moyen d'avoir des éléments de discussion et en mesure de tomber sur quelque chose qui permet à tout le monde d'être d'accord. Deuxième chose, la viabilisation passe aussi par le fait que les gens ont une perception positive. Il est important que les gens payent une fois pour toutes. Quand ils ont payé leur billet, tout est à l'intérieur. Mais la structure du prix doit être transparente, elle doit être disponible. Si vous tapez sur Google, vous cherchez la structure de prix des billets d'avion sur Boussin Airlines, vous allez trouver la structure de prix. Vous cherchez au Sénégal, vous allez trouver. Au Congo, même la structure du pétrole, elle n'est pas disponible, elle est cachée. Et c'est ce qui gêne et qui frustre les Congolais, c'est le fait que l'information ne soit pas disponible, alors que c'est une information du domaine, c'est une information du domaine public.
Voilà, on va évoluer avec les autres auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Il y a Pierre qui est à Lubumbashi, Emile à Mujimai, Ingénieur Mangoyo à Kinshasa. Alors donc les débats, vous le savez, tournent autour de ces communiqués émanant de la direction provinciale de la régie des voies aériennes, RVA Nord-Kivu. Il est fait état de la revue à la hausse de la taxe aéroportuaire, généralement appelée GOPAS, cette taxe qui porte l'intitulé de redevance passager en vigueur depuis le 1er janvier 2017, revient désormais à 58 dollars pour le vol international et à 20 dollars pour les embarquements nationaux. Entre-temps, dans une interview accordée à Radio Capi, le DG de la RVA affirme que ces réajustements est une proposition et ne devrait pas encore entrer en pleine application, laissant dans l'arrêté les dispositions pratiques avec les compagnies. Mais déjà, bon, les uns et les autres craignent ou redoutent encore l'effet domino de cette décision à partir de Goma pour ne pas aller s'étendre à travers le pays. Alors Pierre, vous êtes à Lubumbashi, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour monsieur, bonne année.
Bonne année à vous également Pierre. Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, à toute chose, mais je vous remercie de diffuser ce message, mais malheureusement qui est imparfaitement suivi et entendu. En fait, en parlant de la redevance, soi-disant taxe, quoi, je voudrais demander à l'invité. Supposons que les passagers refusaient de payer cette carte-là. Ça deviendra à la suite, quoi. Ayant voyagé entre Brazza, Pointe-Noire, pratiquement tous les deux semaines, et entre Lumbashi, Lusaka, par avion, en aucun cas j'ai vu cette carte-là. Et le peuple aussi, les passagers, nous avons le droit de savoir l'usage de l'argent, notre cité. Malheureusement, nous n'avons aucune arme pour suivre ça, vérifier et savoir où vont l'argent là, malheureusement. Et vous demandez à votre invité à distinguer le plus grand problème, c'est la facturation. On ne sait pas cet argent sert à quoi. Les aéroports restent les mêmes. Il y a 20 ans, l'État congolais entretenait en cause d'aéroports, mais 20-30 ans avant, quoi. Mais actuellement, c'est à l'inverse, quoi. C'est à l'opposé de tout ce qu'on a vécu, malheureusement. On a dit que, vous voyez, les agents de RBA qui sont en grève à tout moment, en grève, non, pas de paiement, surtout, quoi, pour les taxes qui ne sont même plus, qui sont tout arrivés à la hausse, sans pour autant savoir les raisons et les causes. Malheureusement, enfin, écoute, encore une fois, bonne année, et salut à Kitengen, merci.
Voilà, merci beaucoup. Alors, il faudrait quand même qu'on reprécise les choses, hein, l'instauration de cette redevance, depuis 2013 ou 2012, je crois, depuis le PDG à Assis, le français, à la tête de la RDA, c'était plutôt pour financer la réhabilitation, la construction des infrastructures aéroportuaires. Bon, c'était pas pour prendre en charge les sociales ou les agents de la RVA. Ben, plusieurs questions peuvent être soulevées autour de cela. Est-ce qu'on pouvait aussi fonctionner? Bon, ça c'est notre débat, mais n'empêche qu'on va quand même revenir sur ça. Mais vous avez évoqué l'aspect surfacturation. En plus, on revoit à la hausse, ça devient encore lourd pour la population. Merci Pierre. Émile, vous êtes en Bujimaï. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierre. Comment vous allez?
Oui, très bien, merci. Quelle est votre contribution?
Oui, moi, en tout cas, je suis un peu effrayé d'entendre parler encore, n'est-ce pas, de l'augmentation de cette taxe ou redevance, comme on veut l'appeler, dans la mesure où, quand l'économie de la RDC était un peu bonne, les taux étaient à 10 dollars pour le vol local et à 50 dollars pour le vol international. Alors qu'aujourd'hui, où le pays n'a même pas un budget conséquent, on nous parle de l'augmentation de la dite taxe ou redevance, comme vous voulez l'appeler. C'est dans l'esprit de favoriser le voyage ou créer l'évasion fiscale qui ne favorise pas la caisse de l'État. Moi, je pense que l'on puisse donner d'abord le rapport aux contribuables voyageurs de la gestion des recettes générées par cette redevance depuis qu'on a commencé, qu'on avait initié ça. Donc, on n'a même pas la contrepartie jusqu'alors. Nous ne voyons pas les aéroports vraiment être réhabilités, tout ça. Nous voyons toujours des histoires compliquées. Ici, en Bujimaï, il y a eu des crashs avec l'avion de RSA, et puis il y a eu des morts, tout ça, à cause de l'état, n'est-ce pas, de notre aéroport. Et aujourd'hui, on va encore augmenter sans tenir compte du pouvoir d'achat de la population. Donc, au contraire, il faut diminuer cette taxe parce que l'économie ne va pas bien. Ici, en Bujimaï, dernièrement, il y a eu grève décrétée par les agents de la RIA pour leur arriéré. Cela nous amène à dire que des recettes générées auparavant par la dite taxe sur les dépenses allaient dans des poches des gens parce que ça n'a pas le but pour lequel la taxe a été initiée. C'est pour cela que moi je conseillerais à ceux qui a initié ça de tenir compte de l'économie, parce que notre croissance économique est théorique, n'est pas pratique, parce que la croissance a toujours été fonction du taux des investissements que nous ne voyons pas sur le terrain. Alors nous sommes en train de souffrir, c'est une charge sur nous que devons voyager. Nous sommes en difficulté et l'autorité qui a fait ça doit d'abord se soir ça et puis attendre, n'est-ce pas, les jours à venir pour pouvoir tenir compte, n'est-ce pas, du pouvoir de changer la population, qui peut, s'il est rassuré, alors il pourra mettre ça en pratique. Sinon, ça sera vraiment encore des échauffourées, la population doit encore souffrir davantage.
Voilà, merci beaucoup, Emile. On revient ici à Kinshasa avec l'ingénieur Mangoyo, qui nous a également rejoint. Ingénieur Mangoyo, bonjour.
Bonjour, monsieur Gère.
Voilà, quelle est votre contribution à ce niveau du débat? Les uns ont parlé de la gestion, de l'opacité, voilà, donc tous ces problèmes liés à cette question. Et il y a également Émile qui vient d'évoquer le problème du budget. Aujourd'hui, hier, on nous demandait à $50. Bon, l'économie, il n'y avait pas ce problème, l'inflation que nous connaissons actuellement. Mais aujourd'hui, faudrait-il revoir à la hausse ou plutôt penser à revoir à la baisse pour permettre à la population de souffrir un tout petit peu, quitter ça un peu coincé quand c'est un voyage à Général Mangoyo.
Merci, monsieur Gir, pour l'occasion que vous m'accordez encore pour intervenir à la PA. Gir, je crois que ce n'est pas la première fois qu'on aborde cette thématique au niveau de la Léocapi. La question que je me pose, j'avais envie de ne pas intervenir, mon ami de confiance ayant presque vider l'essentiel de ce que j'allais dire, mais je veux quand même dire quelque chose. Gère, est-ce que, si j'ai bien suivi, il y a à l'intérieur, il y a une direction provinciale de la RVA qui a proposé la révision à la hausse de cette taxe. La question que je me pose, je ne suis pas de la RVA, mais je me pose cette question ici. Est-ce qu'il appartient à la province, à la direction provinciale, de proposer à la hausse, la révision à la hausse d'une taxe? Est-ce que ce n'est pas une prérogative qui élève de la direction générale? C'est la question que je pose comme ça. La deuxième question, je me dis, si je vous ai bien suivi, vous avez dit que l'objectif poursuivi par cette taxe-là, au départ, c'était pour le développement de nos infrastructures aéroportuaires. Si tel est le cas, pourquoi, si on avait un parlement responsable, c'est le Parlement qui devait faire un effort pour suivre l'affectation de cette taxe, pour voir si effectivement cela contribue au développement de nos aéroportières. Mais pourquoi notre Parlement? Voilà, Gérard, pourquoi nous disons, lorsque nous parlons, on dit, oh non, les gens parlent. C'est pour ça que pourquoi nous disons que nos institutions, notamment le Parlement, a échoué dans ce qui concerne le contrôle des services de l'État. Hein? Je ne veux pas revenir sur ce que Confiance a dit, parce qu'il a presque tout dit, mais je note quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du Parlement. Nous avons la Cour des comptes, nous avons le Parlement, mais on laisse faire. Et là, je rejoins Al Kiteng, que je connais très bien, que je salue en passant, que nous aussi, les consommateurs, nous sommes dans quelque sorte responsables avec notre passivité. Parce qu'il faut que nous ayons quand même des structures, des associations, des consommateurs qui puissent réclamer. Voilà. Je crois que c'est une question, franchement, qui relève du Parlement. Il faut que le Parlement joue son rôle. Sinon, oui. Nous attendons une élection pour appeler le nouvel FJA-là.
Oui, qui appelle aussi la responsabilité citoyenne, vous l'avez dit, au travers des structures comme la structure des consommateurs, pour arriver à porter quand même des propositions auprès du Parlement, hein, afin de pouvoir suivre des prêts. Parce que c'est vrai, peut-être à la base, on n'a pas tous la chance de pouvoir partager cette question avec les élus du peuple, mais bon, à chaque fois que nous avons l'occasion dans les différentes structures, comme là on s'était les uns les autres qui vous ont précédé dans le débat, je crois qu'il va falloir qu'on arrive à cette démarche-là. Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo, d'avoir appelé le Kinshasa. Maître Machaka, vous êtes à l'Oumbashi, bonjour.
Bonjour à l'invité, bonjour à tous les jeunes de la radio Capi.
Voilà, qu'est-ce que vous ajoutez à ce que les autres ont dit?
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Moi, ma préoccupation s'est trouvée à ce point, monsieur Gère. Pourquoi fixer ces prix-là d'une manière informe, malgré qu'il y a la différence de prix sur les billets? Pour moi, je souhaiterais ce qu'on fixe conformément au pourcentage du prix du billet officiel. Il y a quelqu'un qui paye les billets à $250 et quelqu'un qui paye les billets à $350, mais tous paient le même prix. Pourquoi ne pas fixer ce prix-là conformément au fixer certains pourcentages conformément au prix du billet, monsieur Gilles? Et d'autres problèmes, les prédécesseurs ont déjà dit ça, c'est question de l'utilisation des frais, puisque un peu partout, les taxes servent au développement d'un pays. Alors, il faut que seulement que nos autorités puissent prendre des dispositions réelles pour que ces taxes-là soient utilisées pas de bons faits, messieurs.
Merci beaucoup, maître Chaka. Philippe, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour, merci pour la parole que vous m'accordez. Alors, moi, je voudrais intervenir et poser une question parce que, en tout début de l'émission, j'ai entendu l'invité parler des intervenants dans le système d'augmentation des prix, notamment la RVA, les exploitants et les consommateurs. Oui. Alors, ma question, c'est que le ministre des tutelles, c'est-à-dire le ministre des Transports et donc le gouvernement, quelle est sa part de responsabilité ou alors son intervention? Si le gouvernement ou le ministre ne peut intervenir en amont, au moins en aval, est-ce que le ministre peut se saisir de cette question et la porter en conseil des ministres pour qu'en fait le gouvernement actuel, qui a d'ailleurs la charge notamment du social, celle des élections, parce que c'est une mesure impopulaire qui a tendance à augmenter, à dépouiller les consommateurs. Et donc, la question que je me pose et que je voudrais poser à l'intervenant, donc le gouvernement n'intervient pas où? Quelle est la part des responsabilités du ministre dans la prise de décision d'augmentation de cette taxe? Parce qu'il ne l'a pas cité, et en aucun moment, il a cité le gouvernement ou alors le ministre de tutelle dans la prise de décision de l'augmentation des...
Oui, je crois qu'est-ce qu'il faudrait rappeler quand même l'historique de cette redevance, que nous l'avons dit avec l'invité tout à l'heure. Tout est parti avec le PDG, le Français Assis, qui avait initié, et le gouvernement avait endossé cette décision. Je crois que la RVA n'a pas fait cavalier seul ou n'a pas évolué à l'électron libre. Et c'est sous l'œil. Et le gouvernement Matata 1, tout comme Matata 2, a accompagné cette décision. Et voire même en 2013, il y a eu un rapport qui était sorti pour en fait évaluer le temps qu'a fait déjà cette redevance. Bon, la conclusion pour la Cour des comptes, c'était qu'il y avait quelques lacunes et il a fallu faire quelques ajustements. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que ces ajustements ont été exécutés pour qu'on arrive au résultat? Mais au final, on se rend compte que au niveau de Goma, on prend une décision. L'interview du DG de la RVA affirme qu'effectivement c'est une proposition, mais qu'il n'est pas encore d'application. Ben voilà, donc toute cette confusion. Mais on a soumis un débat pour que vous aussi, la population, les consommateurs, vous puissiez faire aussi des propositions concrètes. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir appelé. On va prendre Mathieu à Ouvira et on va terminer avec l'ingénieur Mathieu de Kisangani. Et on revient à vous, monsieur Alkitenge, pour la conclusion. Mathieu, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Quelle est votre conclusion?
Je commence d'abord par saluer les Congolais à travers notre victoire d'hier. M'aborder au sujet de ce jour. Moi, je regrette beaucoup comment les autorités congolaises agissent. Je vous dis, mais hier, j'étais au mois de juillet à l'aéroport de Goma. J'ai vu l'aéroport, il y a des araignées partout. Alors, combien ça coûte pour enlever tout cela? Quelles dépenses qu'il faut faire pour enlever ces araignées? Ça fait la honte. Vraiment, c'est la honte ici au Congo. L'argent qu'on demande aujourd'hui, augmenter le GOPAT, ce n'est pas pour l'intérêt du Congolais, c'est plutôt pour l'intérêt des poches des autres, des dirigeants. Et cela, ça nous fait toujours reculer en arrière.
Voilà, donc vous avez posé la question, le problème de balisage. Je crois qu'à une certaine époque, le système fonctionnait plutôt bien. Donc vous estimez qu'aujourd'hui, avec ce système de GoPass, on pouvait encore renforcer ce système et avoir vraiment le résultat. Merci beaucoup. Ingénieur Mathieu, vous êtes avec nous à Kisangani. Bonjour et bienvenue. Et vous êtes le dernier auditeur. Quelle est votre contribution?
Oui, merci de m'avoir encore passé la parole à Radio Papi. Je voulais juste intervenir et dire que, monsieur le journaliste, les taxes ou les redevances qu'on veut ajouter, moi je pense qu'on devrait plus appliquer ça dans les aéroports où les infrastructures ont subi des réhabilitations. Mais dire que ajouter les prix au niveau de l'aéroport de Goma, moi je pense que c'est pas normal parce que ici...
Voilà, dommage. On a des soucis avec l'ingénieur Mathieu. On revient à vous, alors, à Alkitenge. Après avoir écouté les uns les autres, c'est vrai que c'était un échange. Il y a eu des propositions. il y a eu aussi des inquiétudes, hein, des inquiétudes par rapport à cette question, et aussi la passion qui a été flairée par rapport à la gestion, l'opacité, le manque de rédévabilité. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? J'aurais bien sur ma question, faudrait-il repenser ces mécanismes pour avoir les résultats? Ou bien il faut, comme vous l'avez dit, en amont, repenser plutôt la restructuration de la RVA.
Cinq choses. La première, il faudrait bien que les consommateurs se rendent compte du pouvoir qu'ils ont et qu'ils l'exercent. Je voudrais vous rappeler qu'en parlant de l'aéroport de Kinshasa, l'aéroport de Ndjini, il a suffi que la télévision Molière passe des commentaires assez acides sur le caractère inacceptable des toilettes qui étaient dans l'ancien aéroport pour que dans la semaine, la direction générale de l'aéroport les mette à niveau. Donc, les gens ont le pouvoir, mais ne l'exercent pas, première chose. Deuxième chose, il y a des choses qui ne demandent pas de l'argent, qui demandent simplement de la technologie. Il est important que, de manière systématique, notre aéroport s'inscrive dans la modernité. Et la modernité passe par les technologies. Si vous allez sur le site de la RVA aujourd'hui, vous serez désolé, il n'y a pratiquement rien du tout. Il n'y a rien au service du citoyen. Il est important, et ça ne coûte pas de l'argent, de moderniser le système de communication des aéroports. Troisième, il est important de constater que dans son état actuel, la RVA est en faillite. C'est pour ça qu'elle détourne les moyens qui sont censés aller à des besoins spécifiques pour opérer des dépenses opérationnelles et de consommation interne. Ce qui n'est pas acceptable, c'est du détournement. Il est important que dans la structuration des aéroports, on décide d'en faire des aéroports autonomes et que ce soit des entreprises avec des comités de gestion locaux qui gèrent les problèmes locaux. Quatrième problème, c'est toute cette question de la transparence et de la redevabilité. On a mis en place une redevance. En elle seule, elle n'a pas gêné les gens, dans la mesure où les gens se sont rendus compte quand même qu'en contrepartie, il y a un certain nombre d'infrastructures et des services. Après, les gens oublient qu'il y a... On s'est rendu compte que oui, mais c'est un véhicule économique sur lequel on peut adosser un paiement. Les provinces ont commencé à ajouter leurs différents paiements, et maintenant les provinces ajoutent et ajoutent encore. Ça commence à être frustrant. Mais ça pose le problème de base de la République démocratique du Congo, c'est l'assiette fiscale. Elle est trop petite. Dès qu'il y a un véhicule qui se structure, tout le monde se greffe dessus. Regardez la catastrophe qu'on est en train de faire avec les secteurs de télécommunications. Qu'on devait alléger pour que la télécommunication aille partout et interconnecte les gens et stimule l'économie. Nous, par faiblesse de gestion de l'économie, ce que nous faisons, c'est que nous accrochons aux télécommunications parce que c'est facile à voir et on met beaucoup de taxes dessus et on va étouffer ce secteur. Cette faute qu'on a commise là-dessus, c'est celle-là qu'on est en train de commettre dans le secteur du transport aérien. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce que le gouvernement devrait faire, c'est d'avoir les mécanismes pour donner du pouvoir d'achat aux citoyens pour qu'ils commencent à circuler dans le pays. Et s'il y a beaucoup de gens qui circulent, l'assiette fiscale sera assez large, y compris sur le secteur du transport, et voilà. En taxant un peu moins, on peut être en mesure de générer beaucoup plus d'argent.
Voilà. Al-Kitenge, analyste économique, merci d'avoir accepté notre première invitation de l'année 2017. Et tout le plaisir était pour nous de vous recevoir dans cette émission et tout le plaisir était également pour nous de partager ces moments interactifs avec vous, chers auditeurs, et aussi avec toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, Jean-Claude Siala à la mise en onde, Pierre et la Mégie à la réalisation et au standard. Cette émission vous a été présentée et coordonnée par J.R. Lungembo Luabung Anji. A très bientôt.